La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Les filles seraient-elles les grandes oubliées des loisirs publics? C'est la question que l'on va se poser dans notre émission ce soir. L'aide à la jeunesse donne des subsides à une série d'institutions, d'associations, de maisons de jeunes, mais au final, beaucoup d'entre elles sont fréquentées surtout par des garçons. Comment expliquer cet état de fait et comment y remédier? Comment améliorer l'inclusion des filles et plus généralement des publics minorisés au sein de l'espace public? Autant de questions que l'on va aborder ce soir avec nos deux invités. Tout d'abord, Eleanor Miller, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous avez fondé avec Mouad Regif, l'ASBL Activist Childcare, une association qui vise à lutter contre la relégation des enfants, des jeunes et de celles qui s'en occupent, donc majoritairement les femmes. À vos côtés, Edwin de Bouvet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de Dynamo International et président de la toute nouvelle Fédération laïque de l'aide à la jeunesse, donc la FLAJ, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Nous entendrons également dans cette émission Yves Rébeau, géographe et maître de conférences à l'Université de Bordeaux, qui travaille depuis de nombreuses années sur les inégalités de genre dans l'espace public. Alors, Eleanor Miller, vous venez de publier une étude sur la relégation des minorités, et donc en particulier des jeunes filles, en dehors des espaces publics. Étude que vous avez présentée la semaine passée à des acteurs de l'aide à la jeunesse notamment. Alors, quelle est en fait la genèse de cette étude? Quel est finalement le constat de départ duquel vous êtes parti?
Alors, mon camarade dans l'ASBL est président également de l'AMO Dynamo. Et c'est en lisant le rapport d'activité que nous avons constaté un léger écart de parité dans leur public. Donc, il y a légèrement plus de garçons, mais chaque année. On a ensuite vérifié cet écart dans d'autres rapports d'activité, d'autres AMO à Bruxelles. Et on a constaté que c'était un écart qui est systématique. Et
donc, alors AMO, je vais peut-être juste préciser, donc c'est les services d'aide à la jeunesse en milieu ouvert. Peut-être juste Edine de Bouvet, justement.
Oui, les services d'aide aux jeunes en milieu ouvert sont un service spécifique non mandaté de la Fédération Unie Bruxelles, secteur aide à la jeunesse. Mm-hmm. Et donc c'est très spécifique au secteur de l'aide à la jeunesse, donc jeunes en difficulté. Il y en a plus ou moins 80 sur toute la Fédération Unie Bruxelles et une vingtaine sur Bruxelles.
D'accord, donc vous aviez remarqué qu'effectivement il y avait un déséquilibre, on va dire, entre les garçons et les filles. Oui. Donc ça, c'était le constat de départ.
Mm-hmm.
Et ensuite, l'étude, ça s'est basé sur quoi? Des témoignages, des études scientifiques?
Oui, par la suite, on a cherché des articles qui pourraient expliquer cela. On s'est rendu compte que dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait très peu en fait d'études sur cette question. Du coup, on s'est tourné vers la littérature étrangère, notamment britannique et française, notamment Yves Rébeau, par exemple, mm-hmm. mais aussi d'autres études très intéressantes qui sont faites notamment à l'Université de Bordeaux. C'était pas non plus entièrement satisfaisant et du coup, on a prévu de faire cette enquête auprès d'un certain nombre de travailleuses et de travailleurs d'AMO à Bruxelles. Et du coup, de septembre à mars, on en a rencontré une grosse vingtaine pour leur poser des questions par rapport à cette situation.
Et eux-mêmes l'avaient remarqué, cette différence
Oui, tout à fait. Oui. C'était quelque chose qui nous a frappé. En fait, c'est une question. Il y a même des travailleuses qui nous ont dit « Enfin, quelqu'un pose cette question ». Je pense qu'il y a... Enfin, Edwin pourra peut-être me corriger. Je pense que c'est un constat général, mais qui est pourtant très peu travaillé. Donc, on peut s'interroger aussi sur les raisons de cela. C'est une question intéressante aussi, je pense.
Alors, justement, Edwin de Bouvet, est-ce que ça vous avait marqué qu'il y avait vraiment une relégation des filles, qu'il y avait moins de filles qui fréquentaient ces AMO, ces structures d'aide à la jeunesse, ou finalement, c'est une situation qui existe et auquel on ne fait peut-être plus attention, où on se dit elles ne viennent pas, ou ça ne les intéresse pas, et puis voilà quoi.
Eric, dans notre histoire, on existe depuis plus de 30 ans, et c'est vrai que si au début, on avait une certaine parité filles-garçons, en développant vraiment notre méthodologie de travail de rue, en allant dans les quartiers, on s'est rendu compte qu'à travers les activités collectives, plus particulièrement, c'est plutôt les garçons qui fréquentaient nos activités plutôt que les filles. Et que petit à petit, effectivement, on a perdu contact avec cette population-là, jusqu'au moment où les filles elles-mêmes se sont mobilisées et ont demandé de ravoir une place dans nos structures et dans nos activités. Et je dirais que c'est au départ de la demande des filles que s'est constituée des équipes mixtes mixte, par exemple. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte au départ qu'il y avait même ça, une diminution de la population. C'était pas, c'était un constat, je dirais, qu'il faut en tout cas une situation qui s'est développée,
oui,
qui s'est installée sans qu'on y fasse trop attention, malheureusement.
Alors, je vous propose d'écouter une première fois, une première intervention d'Yves Rébeau. Donc, il a réalisé plusieurs études en France sur notamment le financement des loisirs publics à travers l'analyse des genres. On va l'écouter tout de suite.
On a fait des compilations dans plusieurs villes de France et puis également en Suisse, hein, sur les subventions qui étaient données à des associations ou bien sur les financements des politiques jeunesse, des politiques loisirs. Et donc, on a eu ce chiffre assez stupéfiant et qui se répète que 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Donc ce chiffre étonne, hein, toujours, trois fois plus de garçons, et puis interroge aussi la justice, c'est-à-dire que est-ce que c'est normal que l'impôt profite trois fois plus aux garçons qu'aux filles? Et alors après, bien, on est obligé d'une part de regarder où sont les filles et les garçons, et comment s'organisent finalement de façon inconsciente ces discriminations.
Alors ici, il nous dit que 75% donc des budgets publics partent dans la construction, alors ça va être de terrains de foot, de skatepark, donc pour les garçons. Mais est-ce que c'est pas une vision aussi un peu sexiste? Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui font du foot, il y a des filles qui font du skate ou qui font de la boxe.
Ça pourrait être une vision sexiste s'il y avait des activités accompagnées, par exemple, dans les skateparks ou dans les terrains de foot qui viseraient à ébranler le caractère genré de ces activités. Seulement, de fait, c'est uniquement les garçons qui s'en servent, ou quasi, et quelques exceptions de cas très spécifiques et de types très spécifiques. Et donc, l'idée est que sans ces activités pour ébranler le caractère genré, alors on ne peut pas parler d'égalité de budget ni d'égalité de genre dans ces espaces.
Oui, et d'ailleurs, dans la brochure et l'étude que vous avez publiée, vous dites que ces sports, ces loisirs sont souvent des lieux de consolidation du genre.
Oui, tout à fait, oui.
Vous pouvez nous expliquer peut-être cette notion de consolidation de genre?
Oui, oui. Donc, une activité qui consolide le genre masculin serait une activité où s'échangent des blagues sexistes et un certain nombre de stéréotypes sont installés et approfondis. Par exemple, des insultes comme PD ou ta fiole vont servir à renforcer les attentes virilistes entre les garçons. Donc un garçon qui exprimerait une émotion qui n'est pas en règle avec une identité masculine très virile serait insulté de cette manière homophobe. Une fille qui passerait serait insultée également de salope ou d'autres insultes très sexistes. Et tout cela sert en fait d'apprentissage de genre entre les garçons et entre les garçons et les filles également.
Alors, je vous propose de réécouter un autre extrait de l'interview d'Yves Rébeau. Donc, il nous explique que les filles vont déserter progressivement les lieux de loisirs publics, les maisons de jeunes, les AMO, vers l'âge de 12 ans. On l'écoute.
Dès l'enfance, eh bien, les garçons, on les laisse jouer dehors. On considère qu'ils ont plus besoin de jouer les filles. Et puis, dès le départ, dès l'enfance, eh bien, on considère que les garçons sont moins en danger que les filles dans l'espace public. Donc, on les laisse jouer dans la rue, on les encourage. Et donc, il y a un contrôle, hein, des petites filles dans l'espace public. Ça se redouble à l'adolescence, hein. Donc, cette petite fille qu'on interrogeait, elle disait, ben, avant, j'allais au basket. Maman me dit, maintenant, t'es grande, tu peux plus traverser le quartier toute seule, c'est dangereux, hein. Donc, on a bien des témoignages où on voit bien la peur, hein, que représente l'agression sexuelle pour les petites filles, qui conduit et finalement qui aboutit à les priver de loisirs. Ou bien une autre dit, j'allais à la maison de jeunes, les garçons ils m'ont traité, ils m'ont dit que j'étais grosse, etc. Ou bien une autre dit, je suis partie en vacances, j'étais en VTT, mais ça allait trop vite, j'ai pleuré, alors le moniteur a dit t'es pas au niveau, rentre chez toi. Donc on voit bien que finalement les filles, on fait pas un grand effort finalement pour qu'elles réussissent dans les loisirs. Et justement ce que montrent nos études, c'est à quel point on est accaparé et préoccupé par les loisirs des garçons.
Alors oui, Edwin de Bouvet, je voulais revenir sur un des points qui a été soulevé par Yves Rébeau. C'est le rôle des animateurs ou des animatrices, des encadrants. Parce qu'on voit par exemple dans l'extrait, il dit qu'à une jeune fille, on a dit qu'elle était trop lente dans une activité VTT. Est-ce que parfois les travailleurs sociaux peuvent accentuer, vous pensez, ce sexisme, ou en tout cas cette relégation des filles sans même en être conscient?
La première chose à dire, c'est qu'on est dans une société qui est très stigmatisante, très discriminante, et les filles vivent une double stigmatisation. Elles le vivent, je dirais, de par la société, hein, une stigmatisation générale, que ce soit l'emploi, l'école, le logement, etc., etc. Je veux dire, tout jeune aujourd'hui est potentiellement discriminé. On peut même parfois parler d'une société d'apartheid jeune, quoi. C'est assez fort, mais pas facile d'être un jeune aujourd'hui pour être accepté. à différents niveaux de la société. Alors, dans ce contexte, le comportement des uns et des autres, si on n'y prend pas garde, pourrait relayer en tout cas cette stigmatisation ambiante à tous les niveaux. Je crois vraiment que c'est du ressort des services et du ressort des associations de vraiment organiser la mixité, d'organiser la non-discrimination. Si elle ne le fait pas, elle risque d'aller dans le courant majeur si on n'y fait pas attention. Ce qui n'est pas organisé, je dirais, dans le sens de la mixité, que ça soit sociale ou que la mixité genre, risquerait d'aller tout à fait à l'encontre. Alors il y a moyen de le faire effectivement à travers le fait que des équipes soient mixtes. C'est aujourd'hui venu la règle quasi dans le service en milieu ouvert, mais on a vu effectivement qu'à travers certains types d'activités ça suffisait pas et qu'il fallait pousser la réflexion encore plus loin, quoi.
Oui, c'est vrai que la semaine passée, quand l'étude a été présentée, il y avait certaines personnes qui travaillaient dans des AMO qui disaient ben voilà, maintenant, on essaie effectivement de chaque fois faire des activités mixtes ou d'avoir l'animatrice qui va s'occuper de l'activité football et voilà, en tout cas d'essayer de casser ces idées de genre, justement.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'on a voulu faire avec cette étude, c'est notamment de centraliser, de recenser ces pratiques afin de les partager. Parce que je pense que le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'initiatives individuelles qui iraient dans le sens de plus de mixité et d'égalité, mais qu'elles ne sont pas systématisées et qu'elles ne sont pas inscrites dans un cadre institutionnel qui les rendrait obligatoires, en quelque sorte.
On va continuer à parler des solutions à mettre en place et des solutions qui sont déjà mises en place pour améliorer les choses. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, on va rester dans le thème puisqu'on va écouter Giedrė. Alors, Giedrė, c'est une chanteuse d'origine lituanienne qui aborde dans ses chansons des thèmes souvent difficiles comme la maladie, la vieillesse, la violence conjugale, le sexisme ici en l'occurrence, mais sous forme de comptine totalement décalée. Alors, je vous propose d'écouter ici Pisser debout.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, être un homme c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques, et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans je pourrais devenir un vieux beau, alors que là à 30 ans je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si
j'étais un homme, je serais ta capitaine d'un bateau. Non, j'irais plutôt me taper des buts à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un Don Juan. Oh, si j'étais un homme, si seulement. Si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout. Pisser debout.
Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle de la place des filles, des femmes dans les loisirs publics, dans les maisons de jeunes, dans les AMO, donc les services d'aide aux jeunes en milieu ouvert. Et on en parle avec Eleonore Miller de l'association Activiste Child Care et avec Edwin de Bouvet, directeur de Dynamo International. Alors dans cette chanson, Djedré nous dit « Dans ma vie, j'aurais beaucoup moins d'embrouilles, si j'avais des couilles ». Alors est-ce que vraiment dans les activités organisées justement par toutes ces associations d'aide à la jeunesse, les garçons ont vraiment moins d'embrouilles?
Moi, je dirais non. Je pense que s'il y a clairement des questions, des énormes questions à régler au niveau de l'égalité entre les filles et les garçons, le problème est, les garçons ont des privilèges, ça c'est certain. Ils ont des privilèges en matière d'emploi, par exemple, mais ils sont aussi les victimes de carcans identitaires qui sont très puissants. Et on le voit notamment avec les jeunes homosexuels qui ne sont pas libres d'exprimer cette homosexualité auprès de leur père. C'est vrai pour les lesbiennes aussi, mais de manière quand même légèrement différente et peut-être moins violente, parce que les lesbiennes seraient plus ciblées par des violences venant aussi de garçons que de violences venant de leur père. Donc moi je dirais non.
Mmh. Oui, parce que c'est vrai que votre étude, on a parlé beaucoup du fait qu'elle parlait des filles, de la place des filles, mais elle parle de plus généralement des publics minorisés, donc y compris effectivement les homosexuels, les transgenres, qui sont aussi minorisés souvent dans les structures d'accueil des jeunes.
Oui, mais c'est une question très délicate à poser, parce que je ne veux pas non plus minimiser le privilège masculin, qui est vraiment une réalité qui a des conséquences très concrètes pour les femmes et les filles. Néanmoins, les garçons, et notamment les garçons qui sont minorisés en termes de la couleur de leur peau ou de leur religion, souffrent également aussi de violences dans les espaces publics. Et d'ailleurs, les violences, au sens des violences qui sont punissables par la loi, ciblent plus les garçons dans les espaces publics que les femmes, en fait, et les filles qui sont plus victimes de violences au sein de leur domicile ou auprès de leurs proches.
Alors, dans l'étude, vous faites des recommandations au niveau du travail avec les jeunes, des familles, l'encadrement, des organisations, au niveau institutionnel aussi. Alors, on va citer quelques éléments. Alors, peut-être un point, c'est le travail de confiance à mener avec les parents. Edwin de Bouvet, est-ce que y a une relation particulière à nouer avec les parents quand on s'occupe des jeunes? C'est important d'avoir cette relation de confiance aussi avec les parents pour ceux qui ont des parents présents?
Pour ceux qui ont des parents présents, oui, ce n'est pas toujours le cas. C'est important pour les garçons et pour les filles, mais c'est vrai que pour les filles plus particulièrement, le fait que les parents fassent le lien, nous connaissent et une confiance, ça peut faciliter les choses. C'est sûr que c'est important. C'est pas toujours aussi facile. La relation jeune, adolescent, parent n'est pas toujours au beau fixe, et donc parfois l'enfant a aussi besoin de se développer en dehors du cadre familial ou du cadre scolaire pour se construire lui-même. Et les services en milieu ouvert sont là effectivement pour l'aider à se construire parallèlement à ces deux autres instances de socialisation, on va dire. Mmh. Mais il est clair que avoir une méfiance ou une défiance de la part des parents par rapport au type d'action que nous menons, ça facilite pas les choses.
Oui, donc c'est important, par exemple, pour des filles, si les parents ont confiance dans l'institution, ils vont plus facilement accepter que la fille participe à des activités de cette institution.
Oui, ça c'était l'idée. Après, on a inclus ce point parce qu'il est mentionné par énormément de personnes que nous avons rencontrées. Mais les personnes qui ne l'ont pas mentionné ont aussi dit qu'on excuse tout avec ce point-là. Et donc, souvent, on dit que c'était un problème avec les parents, alors qu'en fait, c'est les jeunes elles-mêmes ou eux-mêmes qui ne veulent plus venir.
Ouais,
donc, c'est un point quand même à nuancer, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edwin.
Oui, tout à fait. Je pense que les parents ne sont pas, je dirais, ne sont pas surresponsabilisés par rapport aux difficultés que les enfants, les jeunes adolescents ou jeunes adultes d'ailleurs vivent. Il y a un contexte, une société, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assez excluante, qui est assez discriminante. Et tout jeune le vit de manière différente, sur des enjeux différents, sur des questions différentes. Tout remettre sur le dos des parents serait tout à fait erronée.
Mais d'ailleurs, dans les recommandations, vous dites qu'une des premières choses à faire, c'est aussi lutter contre le sexisme entre les jeunes eux-mêmes. Mmh. Donc, lutter contre les stéréotypes entre les jeunes eux-mêmes. Que ce soit d'ailleurs les stéréotypes de genre ou les stéréotypes liés au racisme aussi.
Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est fait déjà beaucoup. Donc, pour moi, c'est pas le point le plus important de la brochure. On l'a cité pour être complet. Mais il y a déjà pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens, notamment la mallette genre diffusée par la MO Itinéraire est un outil d'animation assez positif, je pense, pour lutter contre les stéréotypes sexistes et de genre.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres recommandations qui vous semblent vraiment plus importantes et à vraiment mettre en place rapidement?
Pour moi, les deux points qui sont vraiment essentiels, c'est le fait que la déconstruction des perceptions des risques, des filles, parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, qu'il y a un certain apprentissage du risque qui vise certaines minorités, alors que, je répète, les filles sont le plus à risque auprès de leurs semblables ou de leurs proches. Des stéréotypes racistes, par exemple, par rapport aux violences sexistes, sont très dangereuses pour les filles, en fait, parce qu'elles vont peut-être moins savoir réagir quand elles sont victimes de violences de la part d'un prof ou d'un gardien de la paix, comme il était question dans notre échantillon. Ça, c'est un point. L'autre, c'est la notion de safe space. Je pense que c'est une notion qui est de plus en plus utilisée dans pas mal d'instances, et à juste titre, parce que c'est une... Donc, un safe space, c'est un lieu où il y a une absence de violence symbolique et physique, une certaine protection de ces violences-là. Je pense que c'est vraiment important à mettre en place, surtout quand on travaille avec des jeunes qui sont, par ailleurs, comme dit Edwin, victimes de violences à l'école, au sein de leur famille, parfois, et dans les espaces publics également.
Est-ce que vous avez... Il y a des choses qui vous semblent assez faciles à mettre en place, peut-être, dans les recommandations qui sont citées, Edwin de Bouvet?
Oui. En tout cas, certainement, la réflexion sur le sens de sa propre action au quotidien. On prend l'exemple de cette fille à qui on dit « Ouais, ça te fera du bien de faire du sport, t'es un peu grosse et tout ça. » C'est ridicule, en fait. C'est pas éducatif, quoi. Bien sûr, c'est facile à dire, mais ça n'apporte jamais rien. Il faut être conscient, effectivement, que le rôle éducatif qu'on peut avoir dans les milieux ouverts est un rôle très important, qu'il y a des incidences au long terme, donc faire bien attention à ce qu'on dit et à comment on communique. Et l'autre aspect très très important aussi, c'est l'accessibilité, dont on parle aussi dans c'est de multiplier les canaux d'accessibilité, de disponibilité. Il faut vraiment que les travailleurs sociaux accentuent encore, et c'est déjà pas mal le cas dans le milieu ouvert, mais continuent à le faire, de se rendre le plus facilement et le plus simplement accessible et disponible par rapport à un public, qu'il soit garçon et fille. Et donc, diversifier les approches, peut-être pas seulement les rencontrer dans la rue, mais aussi les rencontrer sortie des écoles, dans les cours de récréation, dans d'autres lieux où les filles sont plus facilement, je dirais, disponibles et accessibles pour une relation d'entraide éducative. C'est quelque chose qui rentre tout à fait dans nos cordes, on va dire.
Alors, ça peut aussi passer par des mesures institutionnelles, et je vous propose d'écouter une nouvelle intervention donc de Yves Rébeau, qui, je vous le rappelle, est donc géographe, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et il nous parle justement des solutions institutionnelles à apporter.
D'abord, il y a une urgence, c'est-à-dire que si les femmes disent qu'elles ne sont pas en sécurité dans la ville, qu'elles craignent de sortir le soir, etc., c'est une inégalité qui n'est pas admissible dans un État démocratique. Il faut que tout le monde puisse circuler dans la ville de jour comme de nuit sans être inquiété, hein, que tout le monde puisse être à l'aise. Donc pour cela, à mon avis, bien, il faut vraiment réfléchir sur l'égalité, hein, face à l'instruction dans les loisirs des filles et des garçons, hein, et faire en sorte que les petites filles bénéficient autant des loisirs publics que les garçons, leur apprendre à aller sur les terrains, leur apprendre à faire du sport, leur apprendre à faire de la musique, leur apprendre à s'exprimer, leur apprendre à avoir confiance en elles dans l'espace public, et c'est ça qui fera une ville où effectivement les femmes ont leur place. Donc ça passe peut-être par des choses simples comme ce qu'on appelle le gender budgeting, c'est-à-dire de dire bon, bah, maintenant 50% des financements des loisirs publics destinés aux jeunes profitera aux filles, et donc tant qu'on n'y arrive pas, eh bien on remet le travail sur l'ouvrage.
Ouais, donc il faut avoir confiance aussi dans les filles pour qu'elles prennent leur place aussi elles-mêmes. Mmh. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais Edwin Bouvet, je me retourne vers vous parce que, donc, je le disais, vous êtes à la fois directeur donc, de Dynamo International, mais vous êtes aussi président de la Fédération laïque de l'aide à la jeunesse, qui est une nouvelle fédération qui a été créée il y a quelques mois. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement quel est l'objectif de cette fédération, pourquoi elle a été mise en place?
Donc, on s'est rendu compte ces derniers mois, dernières années, en tout cas, on a très très peu entendu les acteurs de l'aide à la jeunesse face à des gros défis, face à des phénomènes comme l'émigration, les différentes violences. Et donc, on s'interrogeait un peu sur, je dirais, ce silence, ce lourd silence. On s'est rendu compte aussi que les espaces de concertation et de discussion au sein du secteur de l'aide à la jeunesse, plus particulièrement, c'était un peu restreint. Donc, on avait moins droit à la parole et tout. Et donc, à quelques services, on s'est dit, il faudrait quand même se remobiliser. Il y a des enjeux de société très importants. Recréer un espace qui permet une réflexion sur les enjeux de société et une prise de parole. Et c'est d'autant plus important que actuellement les choses bougent aussi au sein du secteur de l'aide à la jeunesse, puisque le nouveau ministre de l'aide à la jeunesse, Rachid Madrane, propose une réforme qui fait la part belle à la prévention. Et donc le thème qu'on aborde aujourd'hui fait partie, je dirais, de ce champ très vaste et complexe de la prévention. Et donc il semblait tout à fait important, effectivement, pour nous de pouvoir être autour de la table pour discuter effectivement des modalités de mise en œuvre de ce volet préventif. Et donc on a créé cette fédération Fédération laïque de l'aide à la jeunesse, avec une visée militantiste, progressiste, ce qui manque peut-être parfois dans un secteur qui vieillit peut-être, un peu conservateur sur les bords.
Ce qui est un peu contradictoire, un secteur de l'aide à la jeunesse, mais qui vieillit.
Oui, mais les institutions, elles sont vieilles, hein. Attention, l'aide à la jeunesse, c'est vraiment une vieille institution. Son origine, c'est le ministère des Affaires, c'est le ministère de la Justice. Vous connaissez l'histoire, la protection de l'enfant en Belgique, c'est particulier. Et je ne dis en rien, effectivement, la qualité du travail qui est fait à différents niveaux des services de l'aide à la jeunesse est tout à fait remarquable. Mais peut-être qu'on s'est un peu trop reconcentré sur la gestion de nos services plutôt que de voir dans quel contexte de société se jouaient aujourd'hui les discriminations. Et là, pour pas mal de services, qu'ils soient mandatés ou non mandatés d'ailleurs, qu'ils soient du milieu ouvert ou du résidentiel, voire même des institutions d'enfermement et de ça, on s'est dit, mais non, il y a vraiment à reprendre des initiatives, à reprendre de la parole et une réflexion. Et une recherche comme celle-ci sur la place des filles dans nos services fait partie de cette réflexion du fait que on doit absolument pas avoir de sujet tabou. Il faut pouvoir s'interroger sur le sens de nos actions, et il y a des enjeux à relever.
Oui, ne pas s'endormir aussi sur ses lauriers, parce que effectivement, comme vous le disiez, parfois il y a des choses dont on ne se rend pas compte. Je reprenais une chose que Yves Rébaud avait dit à la conférence la semaine passée où vous avez présenté vos résultats. Il disait, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que les filles sont quand même présentes dans l'espace public, et puis quand on compte vraiment le nombre de personnes sur un skatepark, sur un terrain de foot ou tout simplement sur une place, on se rend compte que finalement, il y a très peu de filles. Donc voilà, c'est peut-être une fausse impression qu'on a que les filles sont présentes, mais elles ne le sont pas.
C'est toujours bien de faire ce travail de compter, parce qu'effectivement, nos impressions passent aussi par le prisme de nos biais, de nos stéréotypes. Donc compter, c'est un outil positif.
Alors, je rebondis juste sur une dernière chose que vous avez dit, Edwine Bouvet. Donc, c'était effectivement cette réforme de l'aide à la jeunesse, donc sur lequel le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles planche déjà depuis plusieurs mois. Donc là, on est vraiment dans les dernières négociations. Il devrait le projet de décret devrait être approuvé dans les prochaines semaines. Quel est votre point de vue général sur justement ce décret? Quels sont les points positifs de ce décret?
De cette réforme oui. Qui aboutirait à un code. Donc le précédent décret, alors là c'était un décret date de 1991, dont le titre c'était « Mieux vaut prévenir que guérir ». Mmh. Force est de constater que depuis la création, depuis la mise en œuvre de ce décret, il y a eu des avancées par rapport au milieu ouvert, par rapport à la prévention, certes au début, mais après, pendant les 15 dernières années, il n'y a plus d'avancées structurelles par rapport au secteur de la prévention. Donc l'aspect positif par rapport au nouveau code, c'est de dire que voilà, il y aura une avancée structurelle, il y aura je dirais un investissement réel sur la prévention. L'autre aspect, c'est l'élargissement de l'âge. Alors, c'est vrai que nous, on était partisans effectivement d'élargir l'âge d'intervention pour la partie prévention allant de 0 à 25 ans, donc d'élargir au-delà de 18 jusqu'à 25 ans, tout simplement parce que quand on est dans l'espace public, quand on est en contact avec les populations les jeunes en plus en difficulté, eh bien c'est pas à 18 ans que ces difficultés s'arrêtent, et qu'il n'existe que très peu d'infrastructures ou de services qui viennent en aide à des jeunes qui éprouvent, des jeunes adultes qui éprouvent des difficultés. Donc faire la jonction entre l'adolescence et le jeune adulte nous paraissait important jusque 25 ans. Il semblerait effectivement que le gouvernement propose jusque 22 ans. On le regrette, c'est dommage. Je pense que la réalité de terrain est un peu autre, mais c'est déjà une avancée par rapport à la limite précédente qui était 18 ans.
Mais en tout cas, on suivra ça attentivement et on consacrera, à mon avis, une prochaine émission à ce sujet et à la réforme de l'aide à la jeunesse dès que le décret sera voté. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je rappelle le titre donc, de l'étude et de la brochure qui a été publiée donc, par l'association Activiste Child Care. Donc, il s'appelle « Filles et autres minorisées, des jeunes comme les autres ». Il y a moyen de se la procurer en envoyant un mail, en allant
sur
le site.
Oui, sur le site, il y aurait toutes les informations très bientôt. Pour l'obtenir.
D'accord, donc c'est www.activistchildcare.org. Voilà, donc merci Éléonore Miller, merci Edwine de Beauvais de nous avoir donc informés sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.